Yeah, Mo. Go ahead. Pour permettre une orientation sommaire à quelqu'un qui, par hasard, arriverait au milieu de ce discours. Je dirais qu'à compléter, comme je vous l'ai annoncé, ce qu'on pourrait dire être la gamme des relations d'objets, avoir dans le schéma qui se développe cette année autour de l'expérience de l'angoisse, avoir cru que nous étions nécessités à ajouter à l'objet oral, à l'objet anal, à l'objet phallique, précisément en tant que chacun est générateur, corrélatif d'un type d'angoisse, deux autres étages de l'objet, portant donc à cinq ces étages objectaux, dans la mesure où ils nous permettent cette année de nous repérer. Vous avez, je pense, suffisamment entendu que depuis de nos rencontres, je suis autour de l'étage de l'œil. Je ne le quitterai pas pour autant aujourd'hui, mais plutôt de là me repérerai pour vous faire passer à l'étage qu'il s'agit d'aborder aujourd'hui, celui de l'oreille. Naturellement, je vous l'ai dit, mon premier mot aujourd'hui a été grossièrement, sommairement également. Et je répétais dans la phrase suivante, ce serait tout à fait absurde de croire que c'est ainsi, sinon d'une façon grossièrement exotérique et obscurcissante, ce dont il s'agit. Il s'agit à tous ces niveaux de repérer quelle est la fonction du désir, et aucun d'entre eux ne peut se séparer des répercussions qu'il a sur tous les autres et d'une solidarité intime qui les unit, celle qui s'exprime dans la fondation du sujet dans l'autre, par la voix du signifiant, de l'achèvement, cette fonction de repérage dans l'avènement d'un reste autour de quoi tourne tout le drame du désir, drame qui nous resterait opaque si l'angoisse n'était là pour nous permettre d'en révéler le sens. Ceci nous mène en apparence souvent à des sortes d'excursions je dirais, érudite, que certains peuvent voir, je ne sais quel charme, éprouver ou réprouver mon enseignement. Croyez bien que ce n'est point sans réticence que je m'y avance, et qu'aussi bien on étudiera la méthode selon laquelle je procède dans l'enseignement que je vous donne. Ce n'est sûrement pas à moi de vous en épeler ici la rigueur. Le jour où on en cherchera dans les textes qui pourront subsister, être transmissibles, se faire encore entendre de ce que je vous donne ici, on s'apercevra que cette méthode ne se distingue essentiellement pas de l'objet qui est abordé. Seulement, je vous rappelle qu'elle relève d'une nécessité. La vérité de la psychanalyse n'est tout au moins en partie accessible qu'à l'expérience du psychanalyste. Le principe même d'un enseignement public part de l'idée qu'elle est néanmoins communicable ailleurs. Ceci posé, rien n'est résolu, puisque l'expérience psychanalytique doit être elle-même orientée. Faute de quoi elle se fourvoie. Elle se fourvoie si elle se partialise, comme en divers points du mouvement analytique, nous n'avons cessé depuis le début de cet enseignement de le signaler, nommément. Dans ce qui, loin d'être un approfondissement, un complément donné aux indications de la dernière doctrine de Freud dans l'exploration des ressorts et du statut du moi, loin d'être une continuation de ses indications et de son travail, nous avons vu se produire ce qui est à proprement parler une déviation, une réduction, une véritable aberration du champ de l'expérience. Sans doute commandé par quelque chose que nous pouvons appeler une sorte d'épaississement. C'était produit dans le premier champ de l'exploration analytique, celle qui pour nous caractérise, qui est caractérisée par le style d'illumination, la sorte de brillance qui reste attaché aux premières décades de la diffusion de l'enseignement freudien, à la forme des recherches de cette première génération dont aujourd'hui je ferai intervenir l'un d'entre eux qui vit encore, je crois, Theodor Reich, et nommément à propos parmi de nombreux et immenses travaux techniques et cliniques, un de ces travaux dit bien improprement de psychanalyse appliquée, ce qu'il a fait sur le rituel. Nous y voyons. Il s'agit ici nommé de l'article paru dans Imago, quelque part, je crois me souvenir, vers la 8e année, je pense, à peu près, je n'ai pas apporté, je n'ai pas oublié le texte ici, paru dans Imago, vers la 8e année, je crois, de cette publication, sur ce dont vous voyez ici écrit en lettres hébreux le nom, le chauffard. Étude d'un éclat, d'une brillance, d'une fécondité, dont on peut dire que le style, que les promesses, que les caractéristiques de l'époque où il s'inscrit, se sont vues tout d'un coup éteintes, que rien d'équivalent à ce qui se produit à cette période ne s'est continué, et donc il convient de s'interroger pourquoi cette interruption même. C'est aussi bien que si vous lisez cet article, vous y verrez se manifester, malgré tous les éloges que je peux donner à sa pénétration, à sa haute signification, vous y verrez se manifester au maximum cette source de confusion, ce profond défaut d'appui dont la forme la plus sensible, la plus manifeste, est dans ce que j'appellerai l'usage purement analogique du symbole. Le chauffard dont il s'agit, je crois, il faut d'abord que j'éclaire ce que c'est. Peu sûr que je suis, que tous ici sachent ce qu'ils disent. Si j'amène aujourd'hui cet objet, car c'est un objet, c'est qu'il va me servir de pivot, d'exemple, pour matérialiser, pour substantifier devant vous ce que j'entends de la fonction du petit a, l'objet précisément à cet étage, le dernier, qui, dans son fonctionnement, me permet de révéler la fonction de sustentation qui lie le désir à l'angoisse dans ce qui est son nœud dernier. Vous comprendrez pourquoi, plutôt que de nommer tout de suite quel est ce petit A en fonction à ce niveau, il dépasse celui de l'occultation de l'angoisse dans le désir lié à l'œil. Plutôt que de le nommer tout de suite, vous comprendrez pourquoi je l'aborde par le maniement d'un objet rituel, ce chauffard qui est quoi, en fin de compte, une corne. Une corne dans laquelle on souffle, qui fait entendre un son dont assurément je ne peux dire à ceux ici qui ne l'ont pas entendu que de s'offrir. Au détour rituel des fêtes juives, celles qui suivent le nouvel an, et qui s'appelle celle du Rosh Hashanah, celle qui s'achève dans le jour du grand pardon, le Yom Kippour, de s'offrir à l'audition dans la synagogue des sons par trois fois répétés du shofar. Cette corde, on appelle en allemand le Widerhorn, corne de bélier. Il s'appelle également corne de bélier. Keren ha Ebel, dans son commentaire, son explication dans le texte hébreu, n'est pas toujours une corne de bélier. Au reste, les exemplaires qui en sont reproduits dans cet article de Reich, qui sont trois chauffards, certainement particulièrement précieux et célèbres, appartenant, si mon souvenir est bon, respectivement aux synagogues de Londres et d'Amsterdam, se présentent comme des objets dont le profil général à peu près semblable. C'est bien plutôt penser à ce qu'il est, car il est aussi classiquement des auteurs juifs qui se sont intéressés à cet objet et ont fait le catalogue de ses diverses formes, signalent qu'il y a une forme de chauffard qui est une forme de corne, qui est faite dans la corne d'un bouc sauvage. Et assurément, un objet qui a cet aspect, assurément, doit beaucoup plus probablement être issu de la fabrication, de l'altération, de la réduction, qui sait, c'est un objet d'une longueur considérable, plus grande que celle que je vous présente là au tableau. Peut-être issu donc de l'instrumentalisation d'une corne de bouc. Ceux donc qui se sont offerts ou qui s'offriront à cette expérience témoigneront, je pense, comme il est général, du caractère, donc pour rester dans des limites qui ne soient point trop lyriques, du caractère profondément émouvant, remuant, du surgissement d'une émotion dont les retentissements se présentent indépendamment de l'atmosphère de recueillement, de foi, voire de repentance dans lequel ils se manifestent, qui retentissent par les voix mystérieuses de l'affect, proprement auriculaire, qui ne peuvent pas manquer de toucher un degré vraiment insolite, inhabituel, tous ceux qui viennent à la portée d'entendre des sons. Autour du questionnement auquel Reich se livre, autour de la fonction de ce chauffard. On ne peut manquer de s'apercevoir, c'est là ce qui me semble caractéristique de l'époque à laquelle ce travail appartient, à la fois d'être frappé de la pertinence, de la subtilité, de la profondeur des réflexions dans cette étude pointée. Elle n'est pas seulement parsemée, vraiment elle est produite autour de je sais quel centre d'intuition et de flair. Il y a, à la date même où ceci est paru, sans doute depuis, avons-nous appris peut-être par je ne sais quel ressassement, routine, usure de la méthode à être la résonance de ce qui se passe, de ce qui surgit de ces premiers travaux blasés à l'époque, et je puis vous en témoigner, comparativement à tout ce qui se pouvait faire comme travaux érudits. Et faites-moi confiance, vous savez que tout ce que je vous apporte ici est nourri de ma part par souvent les en apparence les enquêtes portées jusqu'aux limites du superflu. Croyez-moi, la différence de portée entre le mode d'interrogation des textes bibliques, ceux, le chauffard, qui est nommé comme corrélatif, circonstance majeure de la révélation apportée à Israël, on ne peut manquer d'être frappé. Combien serait-ce d'une position qui, en principe tout au moins, répudie toute attache traditionnelle, voire se place même dans une position presque radicale de critique, pour ne pas dire de scepticisme, combien plus profondément que tous les commandateurs, en apparence plus respectueux, plus pieux, plus soucieux, de préserver l'essentiel d'un message, à lui plus droit, à ce qui paraît essentiellement la vérité de l'avènement historique autour de ces passages bibliques que j'évoquais. Centrés et par eux rapportés. J'y reviendrai. Mais il n'est pas moins frappant aussi, si vous vous reportez à cet article, de voir combien, à la fin, il verse, et certainement faute d'aucun de ses appuis théoriques qui permettent à un mode d'étude de s'apporter à soi-même ses propres limites dans une inextricable confusion. Il ne suffit pas que le chauffard et la voix qu'il supporte puissent être présentés comme analogiques de la fonction phallique. Et en effet, pourquoi pas, mais comment et à quel niveau? C'est là que la question commence, c'est aussi là qu'on s'arrête. Il ne suffit pas qu'une un tel maniement intuitif, analogique du symbole laisse en quelque sorte l'interprétateur à une certaine limite démuni de tout critère, pour qu'ils n'apparaissent pas du même coup. À quel point ce télescope, à quel point verse dans une sorte de mélange et de confusion à proprement parler, innommable, tout ce à quoi au dernier terme et dans son dernier chapitre aboutit Theodor Reich. Pour vous en donner une idée, je ne vous indiquerai que ces points. De pas en pas, et par l'intermédiaire justement de la corne de bélier, de l'indication qui nous est donnée par là, de ce qui est bien évident, de la sous-jacence, plus exactement, de la corrélation, pourquoi pas dire aussi bien, du conflit avec toute une réalité, toute une structure sociale totémique, au milieu de laquelle est plongée toute l'aventure historique d'Israël, comment, par quelle voie, comment se fait-il qu'aucune barrière n'arrête Reich dans son analyse et ne l'empêche à la fin d'identifier Yahvé lui-même avec le veau d'or. Moïse, redescendant du Sinaï, rayonnant de la sublimité de l'amour du Père, l'a déjà tué. Et la preuve, nous dit-il, c'est qu'il devient cet être véritablement enragé qui va détruire le veau d'or et le donner à manger en poudre à tous les Hébreux. Quoi, bien entendu, vous reconnaîtrez la dimension du repas totémique. Le plus étrange, c'est qu'aussi bien les nécessités de la démonstration, ne pouvant passer que par l'identification d'Yahvé non pas à un veau, mais à un taureau, le veau dont il s'agit sera donc nécessairement représentant une divinité fils à côté d'une divinité père. On ne nous parlera du veau que pour brouiller les traces, pour nous laisser ignorer qu'il y avait aussi un taureau. Ainsi donc, puisque Moïse, c'est le fils ici meurtrier du père, ce que Moïse vient à détruire dans le veau par la succession de tous ses déplacements suivis d'une façon où, bien évidemment, nous sentons qu'il nous manque tout repérage, toute boussole capable de nous orienter. Ce sera donc son propre insigne, à lui, Moïse, tout se consume dans une sorte d'autodestruction. Ceci ne vous est indiqué, je ne vous donne là qu'un certain nombre de points qui vous montrent l'extrême auquel une certaine forme d'analyse peut parvenir en son excès. Nous en aurons d'autres exemples dans les conférences qui suivront. Pour nous, nous allons voir ce qu'il nous semble mériter ici d'être retenu. Et pour cela, savoir ce que nous cherchons, ce qui ici relève de ce que j'introduisais tout à l'heure comme constituant la nécessité de notre recherche, à savoir ne pas abandonner ce qui, dans un certain texte, qui n'est après tout rien d'autre que le texte fondateur d'une société, la mienne, celle qui est la raison pour laquelle je suis ici en posture de vous donner cet enseignement, c'est que dans le principe qui commande la nécessité même d'un enseignement, s'il y a au premier point la nécessité de situer correctement la psychanalyse parmi les sciences, ce ne peut être qu'en soumettant sa technique à l'examen de ce qu'elle suppose et effectue en vérité. Ce texte, après tout, j'ai bien le droit de me souvenir que j'ai eu à le défendre et à l'imposer, même si ceux, après tout, qui s'y sont laissés entraîner, n'y voyaient peut-être que des mots vides, ce texte me paraît fondamental, car ce que cette technique suppose et effectue en vérité, c'est là notre point d'appui, celui autour duquel nous devons faire tourner toute ordonnance, fut-elle structurale, de ce que nous avons à déployer. Si nous méconnaissons que ce dont il s'agit dans notre technique est d'un maniement, d'une interférence, voire à la limite d'une rectification du désir, mais qui laisse entièrement ouverte et en suspens la notion du désir lui-même, et qui nécessite sa perpétuelle remise en question, nous ne pouvons assurément, soit d'une part que nous égarer dans le réseau infini du signifiant, ou, pour nous reprendre, retomber dans les voies les plus ordinaires de la psychologie traditionnelle. Ce que Reich découvre au cours de cette étude, et qui est aussi ce dont, à son époque, il ne peut tirer aucun parti, faute de savoir ou fourrer le résultat de sa découverte, c'est ceci. Il découvre, par l'analyse des textes bibliques, je ne vous les énumère pas tous, mais ceux qui sont historiques, je veux dire ceux qui prétendent se rapporter un événement révélateur, sont dans l'Exode, au chapitre 19 et 20, respectivement, versets 16 à 19 pour le chapitre 19, versets 18 pour le chapitre 20. Il est dit, dans la première référence, que dans ce dialogue tonitruant, très énigmatiquement poursuivi dans une sorte d'énorme tumulte, véritable orage de bruit entre Moïse et le Seigneur, il est mentionné le son du chauffard. Morceau énigmatique de ces versets indique également qu'alors qu'il est sévèrement interdit, et non seulement à tout homme, mais à tout être vivant, de s'approcher du cercle environné de foudre et d'éclairs où se passe le dialogue, le peuple pourra monter quand il entendra la voix du chauffard. Point tellement contradictoire, énigmatique, que dans la traduction, on infléchit le sens et qu'on dit que certains pourront monter. Lesquels? L'affaire reste dans l'obscurité. Le chauffard est également expressément rementionné dans la suite de la description du dialogue. Et la présence dans tout ce qui est perçu par le peuple censé assembler autour de cet événement majeur rementionne le son du chauffard. L'analyse de Reich, dont il ne trouve à dire pour la caractériser, pour la justifier, rien d'autre, que ceci, c'est que une exploration analytique consiste à chercher la vérité dans les détails. Assurément, caractéristique qui n'est pas fausse ni à côté. Mais nous ne pouvons manquer de voir que si c'est un critère en quelque sorte externe, que c'est là l'assurance d'un style, ce n'est pas non plus pour autant quelque chose qui porte en soi cet élément critique, celui de discerner quel est le détail qui doit être retenu. Assurément, de toujours, nous savons que ce détail qui nous guide est celui même qui paraît échapper au destin de l'auteur. Rester en quelque sorte opaque, fermé par rapport à l'intention de sa prédication. Mais encore, il n'est pas nécessaire de trouver entre eux un critère, sinon de hiérarchie, au moins d'ordre, de préséance. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons manquer de sentir, il forçait de franchir les étapes de sa démonstration, que quelque chose de juste est touché. Quant à ordre articulé et les textes fondamentaux originels mentionnant la fonction du chauffard, ceux qui se complètent de ceux de l'Exode que je viens de vous nommer, à ceux de Samuel, le deuxième livre, au chapitre 6, à ceux des Chroniques, au premier livre des Chroniques, chapitre 13, faisant mention de la fonction du chauffard, chaque fois qu'il s'agit de refonder, de renouveler en quelques nouveaux détails, qu'ils soient périodiques ou qu'ils soient historiques, l'alliance avec Dieu. Comparaison de ces textes avec aussi d'autres emplois occasionnels de l'instrument. D'abord, ceux qui se perpétuent en ces fêtes annuelles, en tant qu'elle-même se réfère à la répétition et à la remémoration à proprement parler de l'Alliance, occasion aussi exceptionnelle, la fonction du chauffard dans la cérémonie dite de l'excommunication, celle sous laquelle le 27 juillet 1656 tomba, vous savez, Spinoza, exclu de la communauté hébraïque, selon les formes les plus complètes, et celle qui nommément comportait avec la formule de malédiction prononcée par le grand prêtre, la résonance du chauffard. Ce chauffard, à travers les rats, se complète du rapprochement des diverses occasions où il nous est à la fois signalé et où il entre effectivement en fonction, et bel et bien, et rien d'autre, nous dit la voix de Dieu, de Yahvé, entendons, la voix de Dieu lui-même. Ce point qui ne paraît pas, d'après tout, à une lecture rapide, être quelque chose qui soit pour nous tellement susceptible d'être exploité, prend dans une perspective qui est celle précisément à laquelle je vous forme ici. Car c'est autre chose que d'introduire tel critère plus ou moins bien repéré, ou que ces critères, aussi bien dans leur nouveauté, avec l'efficience qu'ils comportent, constituent ce qu'on appelle une formation, c'est-à-dire une reformation de l'esprit dans son pouvoir d'abord. Assurément, pour nous, une telle formule ne peut que nous retenir pour autant qu'elle nous fait apercevoir ce quelque chose qui complète le rapport du sujet au signifiant dans ce que d'une certaine première appropriation on pourrait appeler son passage à l'acte. Assurément, j'ai ici tout à fait à gauche de l'Assemblée quelqu'un qui ne peut manquer d'être intéressé par cette référence, c'est notre ami Konrad Stein, dont, à cette occasion, je vous dirai quelle satisfaction j'ai pu éprouver à voir que son analyse de Totem et Tabou et de ce qui peut, pour nous, en être retenu, l'a conduit à cette sorte de nécessité qui lui fait parler de quelque chose qu'il appelle à la fois signifiant primordiaux et qu'il ne peut détacher de ce qu'il appelle également acte, à savoir de ce qui se passe quand le signifiant n'est pas seulement articulé, ce qui nous suppose que sa liaison, sa cohérence enchaîne avec les autres, mais quand il est à proprement parler émis et vocalisé. Je ferai, quant à moi, ici, quelques toutes les réserves sur l'introduction sans autre commentaire du terme acte. Je ne veux, pour l'instant, retenir que ceci, qui nous met en présence d'une certaine forme, non pas de l'âme, mais de l'objet petit âme, en tant que nous avons appris à le repérer, en tant qu'il est supporté par ce quelque chose qu'il faut bien détacher de la phonémisation comme telle, qui est la linguistique nous a rompu à nous en apercevoir, qui n'est rien d'autre que système d'opposition avec ce qui l'introduit de possibilité de substitution et de déplacement de métaphores et de métonymies, mais qui aussi bien se supporte de n'importe quel matériel capable de s'organiser en ces oppositions distinctives d'un à tous. Existence de la dimension proprement vocale, du passage de quelque chose de ce système dans une émission qui se présente à chaque fois comme isolée, est une dimension en soi, à partir du moment où nous nous apercevons dans quoi plonge corporellement la possibilité de cette dimension émissive. Et c'est là que vous comprenez, si vous ne l'avez déjà deviné, que prend sa valeur l'introduction exemplaire. Vous pensez bien que ce n'est pas le seul dont j'ai pu me servir de cet objet exemplaire que j'ai pris cette fois dans le chauffard, parce qu'il est à votre portée, parce qu'il est, s'il est vraiment ce qu'on nous dit qu'il est, on a un point source et jaillissant, une tradition qui est la nôtre, parce que déjà, un de nos ancêtres, dans l'énonciation analytique, s'en est occupé, l'a mise en valeur, mais la tuba, mais la trompette, mais d'autres instruments, car il n'est pas nécessaire, encore que ce puisse pas être n'importe quel instrument, que ce soit un instrument à vent. Dans la tradition abyssine, c'est le tambour. Si j'avais continué de vous faire ma relation de voyage depuis que je suis rentré du Japon, j'ai fait état de la fonction tellement particulière dans le théâtre japonais sous sa forme la plus caractéristique, celle du no, joue justement le style, la forme d'un certain type de battement en tant qu'il joue par rapport à ce que nous pourrions appeler la précipitation, le nœud de l'intérêt, une fonction vraiment précipitatrice et liante. J'eusse pu aussi bien me référant au chant ethnographique me mettre, comme d'ailleurs le fait lui-même Reich, à vous rappeler la fonction de ce qu'on appelle le bull roarer, à savoir cet instrument très voisin de ce qu'est une toupie, encore qu'il soit fait très différemment, qui dans les cérémonies de certaines tribus australiennes font surgir un certain pic de ronflement, hein, que le nom de l'instrument compare à rien moins au mugissement d'œuf, hein, comme le nom le désigne, hein, et qui mérite en effet d'être rapproché dans l'étude de Reich de cette fonction du chauffard, pour autant qu'elle aussi est en équivalence à ce que d'autres passages du texte biblique appellent le mugissement ou le rugissement de Dieu. L'intérêt de cet objet est de nous montrer ce lieu de la voix, et de quelle voix, nous verrons son sens, en nous repérant à son propos dans la topographie du rapport au grand oak, n'allons pas trop vite. Mais cette voix, de nous la présenter ainsi, sous cette forme exemplaire, où elle est là, d'une certaine façon en puissance, sous une forme séparée. Car c'est elle, qui va nous permettre au moins de faire surgir un certain nombre de questions qui ne sont guère soulevées. La fonction du chauffard entre en action dans certains moments périodiques qui se présentent au premier aspect comme de renouvellement de quoi ? Du pacte. De la loi. Le chauffard n'articule pas les principes, les bases, les commandements de ce pacte. Il est pourtant bien manifestement présenté jusque dans l'articulation dogmatique à son propos. Inscrite dans le nom même courant du moment où il intervient, comme ayant fonction de souvenance. Zicker se souvenir. C'est le préliminaire qui supporte la fonction du souvenir, pour autant qu'elle paraît ici appropriée. Un moment, le moment médian, justement, de ces trois émissions solennelles du chauffard, au terme des jours de jeûne du Rosh Hashanah, s'appelle Zikronot. Et ce dont il s'agit, Zikron Teruah. Teruah désigne proprement la sorte de trémolo qui est propre à une certaine façon de sonner le chauffard. Disons que c'est le son du chauffard. Le zikronote, c'est ce qu'il y a de souvenance liée à ce son. Cette souvenance, sans doute, est-elle souvenance de quelque chose, à quoi l'on médite dans les instants qui précèdent, souvenance de l'hakeda. L'hakeda, c'est le moment du sacrifice d'Abraham, celui précis où Dieu arrête sa main déjà consentante pour substituer à la victime Isaac, le bélier que vous savez, que vous croyez savoir. Est-ce à dire pourtant que ce moment même du pacte soit tout entier inclus dans le son du chauffard? Souvenir du son du chauffard. Ou son du chauffard, comme soutenant le souvenir, est-ce qu'il ne se pose pas la question de qui a à se souvenir? Pourquoi penser que ce sont les fidèles puisqu'ils viennent de sauver? De passer un certain temps de recueillement autour de ce souvenir. La question a une très grande importance parce qu'elle nous mène à proprement parler sur le terrain où s'est dessiné dans l'esprit de Freud sous sa forme la plus fulgurante la fonction de répétition. La fonction de répétition est-elle seulement automatique et liée en quelque sorte au retour, au charroiement nécessaire de la batterie du signifiant? Ou bien a-t-elle une autre dimension? Il me paraît inévitable de rencontrer dans notre expérience, si elle a un sens, et celle qui donne le sens de cette interrogation portée par la définition du lieu de l'autre avec un grand A, qui est caractéristique de ce que j'essaie devant vous de soutenir, ce à quoi j'essaie d'accommoder votre mode mental. Pour tout dire, est-ce que celui dont il s'agit de réveiller en cette occasion le souvenir, je veux dire, de faire qu'il se souvienne, lui, ce n'est pas Dieu lui-même. Tel est le point sur lequel nous porte, je ne dirais pas ce très simple instrument, car la vérité, chacun ne peut que ressentir devant l'existence et la fonction d'un tel appareil, au minimum qu'un sentiment profond d'en bas. Mais ce dont il s'agit pour nous maintenant est de savoir comme objet séparé, de savoir où il s'insère, à quel domaine. Non pas dans l'opposition intérieure-extérieure, dont vous sentez bien ici toute la suffisance, mais dans la référence à l'autre, dans les stades de l'émergence, de l'instauration progressive, sur la référence à ce champ d'énigme qu'est l'autre du sujet, à quel moment peut intervenir un tel type d'objet dans sa face enfin dévoilée sous sa forme séparable et qui s'appelle maintenant quelque chose que nous connaissons bien, la voix. Que nous connaissons bien, que nous croyons bien connaître, sous prétexte que nous en connaissons les déchets, les feuilles mortes, sous la forme des voies égarées de la psychose, le caractère parasitaire, sous la forme des impératifs interrompu et sur moi, c'est ici qu'il nous faut pour nous orienter, pour repérer la véritable place, la différence de cet objet nouveau dont, à tort ou à raison, par un souci d'exposition, j'ai cru aujourd'hui devoir d'abord pour vous vous nous le présentez sous une forme en quelque sorte maniable, sinon un exemplaire. C'est ici, maintenant, qu'il nous faut vous repérer pour voir sa différence, ce qui l'introduit de nouveau par rapport à l'étage précédemment articulé, celui qui concernait la structure du désir sous une autre forme exemplaire, combien différente, vous ne pouvez pas ne pas le sentir, et dont il semble que tout ce qui est révélé dans cette nouvelle dimension n'y soit et ne puisse y être d'abord que masqué dans cet autre étage. Il nous faut un instant y revenir pour mieux faire saillir ce qu'apporte de nouveau le niveau où apparaît la forme de petit a qui s'appelle la voix. Revenons au niveau de l'œil, qui est aussi celui de l'espace, non pas de l'espace que nous interrogions sous la forme d'une catégorie, d'une esthétique transcendantale fixée, encore qu'assurément, la référence à ce que, Kant a apporté sur ce terrain nous soit, sinon très utile, à tout le moins très commode. Mais, dans ce que pour nous l'espace nous présente de caractéristiques, dans sa relation au désir, l'origine, la base, la structure de la fonction du désir comme tel est dans un style, dans une forme à chaque fois à préciser cet objet central. Petit A, en tant qu'il est non seulement séparé, mais éludé. Toujours ailleurs que là où le désir le supporte, et pourtant en relation profonde avec lui, ce caractère d'illusion n'est nulle part plus manifeste qu'au niveau de la fonction de l'œil, et c'est en quoi le support le plus satisfaisant de la fonction du désir, le fantasme, est toujours marqué d'une parenté avec les modèles visuels où il fonctionne communément, si l'on peut dire, où il donne le ton de notre vie désirante. Dans l'espace, pourtant, c'est dans ce pourtant que tient toute la portée de la remarque. Rien, en apparence, n'est séparé. L'espace est homogène. Quand nous pensons en termes d'espace, même ce corps, le nôtre, d'où surgit sa fonction, ce n'est pas de l'idéalisme. Ce n'est point parce que l'espace est une fonction de l'esprit. Qu'il puisse justifier aucun berkeleïsme. L'espace n'est pas une idée. L'espace, c'est quelque chose qui a un certain rapport, non pas avec l'esprit, mais avec l'œil. Même ce corps a une fonction de quoi il est appendu. Ce corps, dès que nous pensons espace, nous devons en quelque sorte le neutraliser en l'y localisant. Pensez simplement à la façon dont le physicien fait mention au tableau noir de la fonction dans l'espace d'un corps. Un corps, c'est n'importe quoi et ça n'est rien, c'est un point. C'est quelque chose qui tout de même doit s'y localiser par quelque chose d'étranger aux dimensions de l'espace, sauf à produire les insolubles questions du problème de l'individuation, à propos desquelles vous avez déjà entendu à plus d'une reprise, je pense, une manifestation, l'expression de ma dérision. Un corps dans l'espace, c'est simplement quelque chose qui, à tout le moins, se présente comme impénétrable. Il y a un certain réalisme de l'espace, complètement intenable, comme vous le savez, parce que ce n'est pas moi qui vais vous en refaire ici les antinomies, mais nécessaire. L'usage même de la fonction d'espace suggère, si fonctiforme que vous la supposiez, cette unité insécable, à la fois nécessaire et insoutenable, qu'on appelle l'atome, bien sûr, tout à fait impossible à identifier avec ce qu'on appelle en physique de ce terme, qui, comme vous le savez, n'a rien d'atomique, je veux dire qu'il n'est point insécable. L'espace n'a d'intérêt qu'à supposer cette résistance ultime à la section, puisqu'il n'a d'usage réel que s'il est discontinu. C'est-à-dire, si l'unité qui y joue ne peut pas être en deux points à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est qu'elle ne peut être reconnue, cette unité spatiale, le point, que comme inaliénable, ce qui veut dire pour nous qu'elle ne peut être en aucun cas petite. Qu'est-ce que ça signifie, ce que je suis en train de vous dire? Je me presse de vous faire retomber dans les filets du déjà entendu. Ceci veut dire que par la forme I de petit a, mon image, ma présence dans l'autre est sans reste. Je ne peux voir ce que j'y perds. C'est cela le sens du stade du miroir. Et le sens de ce schéma pour vous forger, dont vous voyez maintenant exactement la place, puisque c'est le schéma destiné à fonder la fonction du moi idéal et de l'idéal du moi, c'est la façon dont fonctionne le rapport du sujet à l'autre quand la relation spéculaire, appelée en cette occasion miroir, du grand autre, y domine. Cette image petit a, par sa ferme i de petit a, image spéculaire, objet caractéristique du stade du miroir, a plus d'une séduction, qui n'est pas seulement liée à la structure de chaque sujet, mais aussi à la fonction de la connaissance. Elle est fermée, j'entends dire close. Elle est gestaltique, c'est-à-dire marquée par la prédominance d'une bonne forme. Et est faite aussi pour nous mettre en garde contre ce que cette fonction de la gestalt, en tant qu'elle est fondée sur l'expérience de la bonne forme, expérience justement caractéristique de ce champ, contient de pièges. Car, pour révéler ce qu'il y a d'apparence dans ce caractère satisfaisant de la forme comme telle, de l'idée dans son enracinement dans l'eidos visuel. Pour voir et déchirer ce qu'il y a d'illusoire, il suffit d'y apporter une tâche. Pour voir où s'attache vraiment la pointe du désir, pour faire fonction, si vous me permettez, l'usage équivoque d'un terme courant, pour supporter ce que je veux vous faire entendre, il suffit d'une tâche pour faire fonction de grain de beauté. Grains et issues. Vous me permettez de poursuivre l'équivoque de la beauté montre la place du petit a, ici réduit à ce point zéro dont j'évoquais la dernière fois la fonction. Le grain de beauté plus que la forme qu'il entache, c'est lui qui me regarde. Et c'est parce que ça me regarde qu'il m'attire si paradoxalement. Quelquefois plus, et à plus juste titre, que le regard de ma partenaire. Car ce regard me reflète après tout. Et pour autant qu'il me reflète, il n'est que mon reflet. Buée imaginaire. Il n'est pas besoin que le cristallin soit épaissi par la cataracte pour rendre aveugle la vision. Aveugle en tout cas à ceci. Les lésions de la castration au niveau du désir en tant qu'il est projeté dans l'image. le blanc de l'œil de l'aveugle. Ou, pour prendre une autre image, à ce moment dont vous vous souvenez, j'espère encore que ce soit un écho d'une autre année, au viveur de la Dolce Vita, au dernier du moment fantomatique du film, quand il s'avance comme sautant d'une ombre à l'autre du bois de pin où il se profile pour déboucher sur la plage, ce qu'il voit, l'œil inerte de la chose marine que les pêcheurs sont en train de faire émerger. Voilà ce par quoi nous sommes le plus regardé et ce qui montre comment l'angoisse émerge dans la vision au lieu du désir qu'il commande. C'est la vertu du tatouage. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce passage admirable de Lévi-Strauss quand il nous évoque ce déferlement du désir des colons assoiffés quand il débouche dans cette zone du Parana où les attendent ces femmes entièrement couvertes d'un chatoiement de dessins, briquant la plus grande variété des formes et des couleurs. À l'autre bout, ce que j'évoquerai, c'est que, si je puis dire, dans la référence de l'émergence, qui, vous le savez, est pour moi marquée d'un style plus créationniste qu'évolutionniste des formes, l'apparition de l'appareil visuel lui-même au niveau des franges des lamellibranches. Commence à la tache pigmentaire, première apparition d'un organe différencié dans le sens d'une sensibilité qui déjà, à proprement parler, est visuelle. Et bien sûr, rien de plus aveugle qu'une tache. À la mouche de tout à l'heure, adjoindrai-je la mouche volante qui donne au détour cinquantenaire des dangers organiques son premier avertissement. Zéro du petit A. C'est là par quoi le désir visuel masque l'angoisse de ce qui manque essentiellement au désir, de ce qui nous commande enfin. fin de compte, si nous restions sur ce champ de la vision, de ne saisir, de ne pouvoir jamais saisir tout être vivant que comme ce qu'il est, dans le champ pur du signal visuel, ce que l'éthologie appelle un dummy, une poupée, une apparence. Ah, petit a, ce qui manque est non spéculaire. Il n'est pas saisissable dans l'image. Je vous ai pointé l'œil blanc de l'aveugle comme l'image révélée et irrémédiablement cachée à la fois du désir scoptophilique. L'œil du voyeur lui-même apparaît à l'autre comme ce qu'il est, comme impuissant. C'est bien ce qui permet à notre civilisation de mettre en boîte ce qu'il supporte sous ses formes diverses, parfaitement homogènes aux dividendes et aux réserves bancaires qu'il commande. Ce rapport réciproque du désir à l'angoisse sous cette forme radicalement masquée, liée de ce fait même à la structure du désir dans ses fonctions, ses dimensions les plus leurrantes, voilà l'étage spécifiquement défini auquel nous avons maintenant à opposer quelle ouverture lui apporte l'autre fonction, celle que j'ai aujourd'hui introduite avec cet accessoire non pourtant accidentel du chauffard. Ai-je besoin, pour clore mon discours, d'anticiper sur ce que j'articulerai pas à pas la prochaine fois? C'est à savoir comment notre tradition la plus élémentaire, celle des premiers pas de Freud, nous commande de distinguer notre dimension. Que nous dit-elle? Là encore, je ferai hommage à notre ami Stein de l'avoir, dans son discours, fort bien articulé. Si le désir, dit-il, et je souscris à sa formule car je la trouve plus que brillante, si le désir était primordial, c'était le désir de la mère, qui commandait l'entrée en jeu du crime originel, nous serions sur le terrain du vaudeville. L'origine, nous dit Freud, de la façon la plus formelle, et à l'oublier, toute la chaîne se défait. Et c'est pour ne l'avoir pas réassuré, ce départ de la chaîne, que l'analyse. Je parle de l'analyse en théorie comme en pratique. Semble subir cette forme de dispersion où l'on peut se demander à certaines heures qu'est-ce qui est susceptible de lui conserver encore sa cohérence. C'est parce que le meurtre du père et tout ce qui commence et ce qui retentit qu'il faut entendre. On ose espérer naître de métaphore dans la bouche de rail. Je sais son beuglement de taureau assommé qui se fait entendre encore dans le son du chauffard. Disons plus simplement que c'est du fait originel inscrit dans le mythe du meurtre comme départ de quelque chose dont nous avons dès lors à saisir la fonction dans l'économie du désir, c'est à partir de là, comme interdit, comme impossible à transgresser, que se constitue dans sa forme la plus fondamentale le désir originel. Il est secondaire par rapport à une dimension qu'ici nous avons abordée par rapport à l'objet essentiel qui fait fonction de petit a. Cette fonction de la voix et ce qu'elle apporte de dimension nouvelle dans le rapport du désir à l'angoisse, c'est là le détour par où vont reprendre leur valeur les fonctions désir, objet, angoisse, à tous les étages jusqu'à l'étage de l'origine. Et pour ne pas manquer à la fois de devancer vos questions, de vous dire aussi peut-être pour ceux qui se les sont posés que je n'oublie pas ce champ et les sillons que j'ai à tracer pour y être complet. Vous avez pu remarquer que je n'ai pas fait état ni de l'objet ni du stade anal au moins depuis la reprise de nos entretiens. C'est qu'aussi bien, il est à proprement parler impensable, si ce n'est dans la reprise totale de la fonction du désir à partir de ce point qui pourrait être énoncé le dernier ici et le plus originel. Celui que je reprendrai la prochaine fois autour de l'objet de la voix.